La question de ce matin, c'est comment espérer en prison. Vous avez bien remarqué que le thème de notre radio don cette année, c'est l'espérance. Et donc, nous avons voulu ce matin aller voir comment cette espérance était matérialisée en prison. Autour de ce plateau, Ghislaine Burali et Bertrand Dumont-Saint-Prix, qui sont aumôniers catholiques au centre de détention de Muret. Bonjour.
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 Et puis, à vos côtés, Jacques Ferry, visiteur de prison. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Approchez-vous bien du micro. Et enfin, Michel Bosque de la CIMAD, visiteur de prison à la maison d'arrêt de Seyss et parfois de Muret. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation ce samedi matin pour participer à cet échange. Ghislaine Burali, Bertrand Dumont-Saint-Prix, Jacques Ferry et Michel Bosque, vous vous rendez régulièrement dans cette maison d'arrêt de Seyss. Et puis pour vous, Michel Bosque aussi dans la... Pardon. Oui, vous, Michel, à la maison d'arrêt de Seyss, et puis vous autres au centre de détention de Muret, pardon. Je voudrais qu'on commence cet échange par expliquer un petit peu le rôle que chacun joue, la différence entre un visiteur, un aumônier. Quel est précisément ce que vous faites, tout simplement, quand vous allez à la rencontre des détenus? On peut peut-être commencer par le rôle du visiteur de prison. Michel, vous voulez commencer? Michel Bosque.
Je ne suis pas visiteur de prison.
Oui, vous n'êtes pas. Oui, pardon. Décidément, c'est difficile aujourd'hui, ce samedi matin. Vous êtes de la CIMAD. Alors, Jacques, nous vous écoutons sur votre rôle de visiteur de prison. Approchez-vous du micro, s'il vous plaît.
Oui, le rôle de visiteur de prison, c'est de venir rencontrer régulièrement les détenus. Ça peut être une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, une fois tous les mois. Ce qui est important, c'est la régularité. Et puis aussi, ce qui est important, c'est qu'on s'engage dans le temps. C'est-à-dire qu'à Muret, il y a un certain nombre, de détenus qui ont des longues peines, voire des très longues peines. Et donc, on peut être amené à rencontrer des gens pendant des années, si vous voulez. Hein. Voilà. Alors, la fonction principale du visiteur de prison, c'est l'écoute, le soutien moral et psychologique pour faire en sorte que le détenu... puisse exprimer ses problèmes, parler de sa situation en détention, et surtout, on essaye, au cours des échanges qu'on va avoir avec lui, de réfléchir à ce qui va se passer quand il va sortir, parce qu'ils vont sortir, même si c'est parfois au bout d'un certain nombre d'années, et c'est un élément de... tout à fait capital, quoi, les aider à se projeter dans l'avenir et à espérer, quoi. Mmh. Alors, ce que j'ajoute, que ce sont les détenus qui demandent à avoir un visiteur de prison, hein, c'est-à-dire c'est pas l'administration pénitentiaire d'autorité...
vous ne vous imposez pas.
Voilà, ouais. c'est le détenu qui fait la démarche, qui demande à avoir un visiteur, et généralement ce sont des détenus qui sont isolés, parce que...
qui n'ont pas de visite, alors.
Voilà, l'incarcération entraîne la rupture des liens familiaux, souvent, et ils sont isolés, ils sont parfois en détresse, et ils ont besoin d'être écoutés. Voilà, c'est ça la mission principale du visiteur de prison.
Est-ce que sur ce rôle de visiteur, même vous, Michel, Michel Bosque, puisque vous êtes de la CIMAD, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette présence auprès des détenus?
Oui, enfin...
ce que nous faisons en tant que bénévole CIMAD, c'est assez particulier parce que la CIMAD, et ça dure depuis 85 ans, s'intéresse principalement aux personnes déplacées, c'était le vocabulaire de l'époque. Aujourd'hui, donc, aux migrants en général, et on ne s'intéresse qu'à l'aspect, par la force des choses, qu'à l'aspect juridique. On n'a rien à donner, on n'a pas d'argent à donner, on n'a pas d'hébergement à fournir, etc., etc. Donc, lorsque nous intervenons en prison, nous nous occupons uniquement des étrangers. Et c'est un peu le même genre de système que pour les visiteurs, c'est-à-dire que c'est les personnes qui souhaitent nous rencontrer, qui contactent leur conseiller de prévention et d'insertion, qui nous appellent lorsque... Alors, on n'intervient pas de façon régulière tel jour de la semaine. Hein. On intervient à la demande, c'est-à-dire lorsqu'il y a en général 5-6 demandes, on se déplace à Seyss. C'est assez rare que... qu'à Muret, on est 5 ou 6 personnes à voir.
Oui.
Bon. L'idée, c'est donc d'essayer de favoriser, exactement comme à l'extérieur, de favoriser l'accès au droit. C'est pas parce qu'on est sans papier, parce qu'on est étranger, qu'on n'a pas de droit. Le problème, c'est que l'accès aux droits, les droits sont de plus en plus restreints et l'accès de plus en plus difficile. Donc, c'est une tâche un peu délicate. Heureusement, nous agissons en lien étroit avec les conseillers d'insertion qui font au passage un travail remarquable la plupart du temps, j'ai l'impression. C'est pas moi le juger, mais enfin j'ai l'impression. En tout cas, les relations sont très fluides et très
cordiales.
Voilà.
Oui.
Et donc bon, je passe sur les détails. Il y a des protocoles, il y a une circulaire qui permet de nommer quelqu'un qui fait le lien entre la préfecture et l'administration pénitentiaire. Il y a un correspondant de chaque côté.
D'accord.
Sauf que ça marche pas. Mais théoriquement, ça marche très bien. Oui.
D'accord, donc ça c'est prévu effectivement dans les textes. Le rôle de l'aumônier de prison, alors Ghislaine Birali, vous êtes une petite nouvelle, on va dire, dans ce rôle-là. Quel est votre rôle précisément au centre de détention de Muret?
Alors donc moi je suis aumônière catholique depuis un an et demi. Donc nous aussi, nous n'intervenons que sur la demande des détenus. Hein. Notre démarche s'inscrit dans le cadre de la mise en application de la loi sur la laïcité, qui permet aux détenus croyants, quel que soit leur culte, de bénéficier de contacts avec les représentants des cultes en prison. Voilà. Donc c'est dans ce cadre-là que nous intervenons. Nous sommes informés toutes les semaines dans le secteur des ce qu'on appelle des arrivants, des détenus qui souhaitent rencontrer un aumônier. Nous évidemment nous sommes informés quand ils souhaitent rencontrer un aumônier catholique, mais ils peuvent demander à rencontrer d'autres aumôniers, oui, d'autres cultes. Voilà. Donc cette démarche s'inscrit donc dans une demande volontaire de la part des détenus, et nous avons un rôle essentiellement d'écoutant. Voilà. Et nous essayons de répondre à des interrogations à la lumière de l'Évangile.
Oui. Est-ce que Bertrand Dumont-Saint-Pry, vous avez des personnes qui vous contactent? Qui contactent nommément l'aumônerie catholique de prison et qui, pour autant, ne sont pas catholiques.
Alors, ça, il arrive qu'en effet, il y ait... Ça, ce qui fait de la différence un petit peu entre les visiteurs de prison et les aumôniers, c'est que c'est déjà dans la façon dont les choses se présentent sur place. Les visiteurs ont un lieu, un parloir, où ils rencontrent les détenus qui souhaitent les voir, alors que nous, les aumôniers, on a la possibilité de circuler librement dans toute la prison. Ce qui fait que non seulement on va voir,
ceux qui
demandent à nous voir, mais comme on circule à l'intérieur, il arrive souvent qu'on croise des détenus qui après nous avoir dit bonjour, nous pose des questions ou discute avec nous, et puis quelquefois nous invite à venir dans leur cellule pour boire un café ou des choses comme ça. Ce qui fait que ça c'est des rapports qui sont quand même un petit peu différents, parce que nous, je rajouterais à ce qu'a dit Ghislaine, que c'est un droit pour les détenus. Ils ont le droit de pouvoir justement voir un aumônier de leur religion et d'avoir le secours de la religion. Mmh. Voilà un petit peu comment les choses se passent pour nous aumôniers, sachant qu'en effet, on a une mission quand même, tous, on est missionnés par l'évêque qui nous envoie en mission en prison, de façon à pouvoir soutenir, accompagner les détenus aussi quelquefois dans leur parcours, parce que quelquefois il y en a beaucoup, en tout cas à Muret, qui passent très très longtemps derrière les murs et qui ont besoin de cet accompagnement au moins spirituel.
Bien sûr. Qu'est-ce que vous diriez de l'état d'esprit des détenus?
Alors si je peux me permettre, oui, il y a une chose qui est pour moi assez importante en prison, enfin même très importante, c'est le rapport des détenus au temps.
Ah oui.
C'est-à-dire le temps qui passe et le temps surtout d'attente. C'est-à-dire qu'ils sont en permanence dans l'attente. Alors, ils ont beau avoir le travail, ils savent déjà qu'ils ont tant d'années à faire, mais ils sont toujours dans l'attente. L'attente de la réponse à la question qu'ils ont posée à leur CPIP, l'attente de la prochaine permission, l'attente, évidemment, de la libération, mais ils sont toujours dans cette attente. Et on peut, par rapport à cette espérance dont on parlait, ils sont en effet dans cette attente, et on peut la relier à l'espérance, parce que c'est toujours l'espérance, enfin l'espoir ou l'espérance, mais l'espoir d'avoir en effet la réponse, d'avoir le tribunal. Il faut voir que le temps est vraiment très important, et que malheureusement, il se trouve que le système est très engorgé, et que du coup...
Et que le temps s'étire.
Voilà. Et là où avant, il fallait 4 mois pour instruire un dossier, maintenant, il en faut 9, etc., etc. Ce qui fait que il y a des gens qui sont en permanence en train d'attendre. Ils n'ont jamais de réponse immédiate à leur... Même quand ils doivent sortir, ils savent pas jusqu'au dernier moment. Bon, ça peut se justifier par certaines choses, mais voilà.
Jacques Ferry, est-ce que vous diriez la même chose, ou est-ce que vous voulez compléter sur cet état d'esprit qui se résume effectivement à l'attente ?
Oui, c'est tout à fait juste. Hein, ce qu'a dit Bertrand, là, c'est le détenu, il est dans l'attente. Hein, oui.
Est-ce qu'il est pour autant abattu, ou est-ce qu'il y a une forme de dynamisme ?
Dynamisme, c'est peut-être un mot... un peu fort, mais il y a des profils psychologiques très différents, vous savez, hein, chez les détenus. Donc c'est difficile de dénoncer des généralités.
Bien sûr.
Alors justement, vous dites abattu. Moi, ce que je voudrais signaler quand même, c'est que dans le système carcéral français, malheureusement, à cause des défaillances de la psychiatrie, il y a beaucoup de gens incarcérés qui ont des troubles sévères. Il y a un certain nombre de psychotiques qui sont incarcérés, qui ne devraient pas être là, mais qui devraient être soignés dans des institutions spécialisées. Alors ces gens-là, bon, ils ont un état d'esprit particulier. Enfin, il y a beaucoup de dépression, il y a beaucoup d'addiction aussi, il faut le dire. Hein. Donc voilà. Mais oui, l'attente, c'est. Enfin, moi, je le constate avec les. Je visite tous les 15 jours de détenus à Muret, sans arrêt. On parle,
la prochaine échéance,
la prochaine permission. Est-ce que je vais pouvoir sortir? Est-ce que le juge d'application des peines va accepter mon projet? Enfin, et donc voilà. Et à chaque fois. Et là, par exemple, je visitais un détenu qui avait un projet, et puis le juge d'application des peines a refusé pour les raisons sur lesquelles je ne vais pas rentrer. Mais donc voilà. Tac. Donc
faut relancer
la machine. Est-ce que je voulais dire aussi peut-être. À propos de ce qu'il faut signaler, c'est la surpopulation carcérale, qui est un phénomène absolument...
On en parle souvent, oui.
Ah oui, oui. Et donc, et qui touche particulièrement les maisons d'arrêt. Donc, vous le savez, on en parle. Hein, il y a 200% de taux d'occupation. Plus de 3000 matelas au sol. Il faut imaginer la vie quand on est à 3 dans une cellule de 9 mètres carrés. Hein, oui. Donc, on peut pas. C'est difficile d'avoir de l'espérance, là. Bon. Oui, ce que je voulais dire, c'est que le système est engorgé. Par exemple, à Seyss, il faut mentionner aussi qu'il y a quand même environ 40% des détenus qui sont en détention provisoire, oui, qui attendent d'être jugés. Et cette attente peut prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est quand même profondément anormal.
Oui, voilà. c'est très long. Voilà. Michel Bosse, sur cette notion d'espoir et d'espérance, qu'est-ce que vous pourriez nous dire?
Alors, si l'on considère la population étrangère en prison, ce qui est assez frappant, c'est la mauvaise compréhension de leur situation. C'est-à-dire que ça révèle vraiment, si vous voulez, le choc, l'énorme gouffre qu'il y a entre la perception de la situation qu'ont les gens d'eux-mêmes et la réalité administrative. Je veux dire que des gens qui sont ici depuis 15 ans, par exemple, des gens qui ont fondé une famille, qui sont, par exemple, conjoints de Français, qui ont des enfants français, etc., etc., nous disent quelquefois non, pas de souci, hein, je vais pas être expulsé, ça va de soi, ma vie est ici, je suis arrivé, j'avais 5 ou 6 ans, je pourrais vous raconter plein d'histoires. Donc notre boulot, c'est pas la partie la plus agréable, mais enfin il faut le faire, notre boulot consiste un petit peu à leur expliquer que la situation n'est peut-être pas aussi favorable et qu'ils peuvent très bien, 3 jours avant le lever d'écrou, recevoir une obligation de quitter le territoire, leur indique un petit peu les moyens de recours, mais c'est souvent très très difficile. Les gens se croient protégés.
Finalement, c'est eux qui ont plus d'espoir que vous.
Ben oui, ben oui. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas d'espoir qu'il faut pas essayer de faire avancer la machine, bien entendu, parce que un droit qu'on n'utilise pas, bien entendu, se perd dans les sables. Et lorsque vous lui parlez, lorsqu'on leur explique que la situation est relativement dangereuse et qu'ils sont bien loin d'être assurés de pouvoir rester, là c'est le désespoir qui arrive, bien sûr, voire la révolte. Et assez souvent, comme le disait Jacques, on rencontre des gens qui sont vraiment complètement à bout de nerfs, qui sont déprimés, etc. Notre boulot, c'est aussi de les écouter. C'est pas simplement d'insister sur l'aspect administratif de la situation, c'est aussi de les écouter. Mais lorsqu'ils vont trop mal, on fait un signalement auprès des conseillers d'insertion et on contacte aussi l'association des visiteurs de prison pour qu'ils puissent les rencontrer, essayer de...
Oui, et avoir un lien plus régulier avec les détenus.
Voilà.
D'accord. Avant de vous donner la parole, Ghislaine Burali, nous allons faire une première pause musicale. Je vous propose d'écouter l'Espérance.
Donc on va écouter Isabelle, évidemment, ça va laisser le temps aux personnes d'appeler, puisque ce matin, chaque don de 8h jusqu'à 10h, participe à un tirage au sort qui vous permet, vous qui nous écoutez, de gagner des forfaits de ski pour aller à Gourette. On sait qu'il fait très froid aujourd'hui, et ça tombe bien, il neige sur les stations de ski. Si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur le site n-pi.com. Le numéro pour participer, 05 62 48 63 00.
Le front penché sur la terre, j'allais seul et soucieux.
A toujours
Nous sommes de retour sur le plateau de Radio Présence afin d'échanger sur l'espérance en prison avec Ghislaine Burali, Bertrand Dumont-Saint-Prix, Jacques Ferry et Michel Bosque. Ghislaine Burali, je vous donne la parole pour commencer cette deuxième partie. Vous vouliez rebondir sur la notion d'espérance.
Oui, la notion d'espérance et la notion de temps, peut-être pour amener une note un peu plus positive. Les personnes détenues, quand elles sont en centre de détention, s'inscrivent dans un temps long, et parfois très long. Et donc, on l'a dit, vont bénéficier en centre de détention d'une cellule où ils seront seuls. À la différence des maisons d'arrêt où ils sont deux, trois par cellule.
Oui, ce que disait Jacques.
Et comme ils vont être seuls, ils vont commencer un travail de prise de conscience, puis d'acceptation et parfois de transformation. Et je pense que c'est là que s'inscrit la parole d'espérance, c'est que l'espoir... j'entendais hier le père Daguet sur
dans Vivante ici, Église, voilà, vendredi matin,
qui disait quelque chose de très intéressant. Il disait l'espoir, c'est quelque chose qui n'existe pas en définitive. C'est une projection humaine, alors que l'espérance, c'est un don de Dieu, et c'est la confiance que nous avons en Dieu et de son plan d'amour pour nous. Et donc, ça change la vision du temps. Et nous voyons que certains détenus se sont vraiment transformés en prison jusqu'à nous dire merci parce que la prison m'a rendu ma liberté. Donc je crois que c'est ça la parole d'espérance,
oui, bien sûr,
qu'on peut rapporter de ce qui se vit en prison.
Bertrand Saint-Prix, est-ce que vous auriez un exemple d'un détenu justement qui s'est transformé grâce aux visites régulières d'un aumônier catholique de prison ?
Alors, il y a pas mal, peut-être pas grâce à l'aumônerie, mais grâce au Saint-Esprit,
oui,
pour nous.
Qui passe par vous quand même.
Qui passe peut-être un peu par nous, oui. Il y a pas mal de choses qu'on pourrait dire. Déjà, si vous voulez, moi, je peux vous citer un détenu qui est sorti récemment. Alors, ce détenu, pour citer assez rapidement, il a été marié plusieurs fois. Et puis, après son dernier mariage, en fait, sa femme a réussi, alors qu'il était déjà détenu, à ce qu'il se convertisse. Et donc, il est revenu à la religion qu'il avait oublié pendant un temps, et il s'est vraiment petit à petit transformé, toujours un petit peu par rapport à ce qu'on disait, dans l'attente et dans l'espérance de sa sortie. Ben, l'autre jour, il a appris enfin qu'il allait sortir, et ben la première chose qu'il a fait en rentrant dans sa cellule, il s'est mis à genoux et il a remercié Dieu. Et je trouve ça assez beau,
ouais,
de voir ce truc. On peut citer peut-être d'autres exemples. Je sais pas, Ghislaine, t'as peut-être d'autres exemples. Sinon, il y a un détenu, bon, appelons-le Antoine, mettons, donc qui était quelqu'un qui était condamné à mort et qui a eu, donc avant 81.
Eh oui, c'est ça. Ouais.
Et qui a eu en 81 sa peine commuée en perpétuité. Et donc, il a eu tout un cheminement, mais chaque fois qu'il demandait à avoir un aménagement de peine, c'était toujours refusé. Et puis là, enfin, il a eu la possibilité d'avoir un aménagement de peine. Et voilà, il a décidé, lui, de se consacrer à des associations caritatives. Bon, il est à la retraite et voilà, il veut faire ça. Donc c'est un cheminement quand même.
Il a trouvé un
énorme.
Sens.
Voilà, il a trouvé un sens à sa vie.
À sa vie, oui. Michel Bosque et Jacques Ferry, sur cette notion de visite, puisque vous allez régulièrement donc en maison d'arrêt ou en centre de détention, qu'est-ce qui vous motive pour y aller à chaque fois ? Parce que c'est quand même pas évident d'être confronté à la souffrance de l'autre. Quel est votre moteur intérieur ?
euh, Le moteur principal, je dirais que c'est l'aide que l'on essaie d'apporter aux exclus. Les étrangers faisant souvent partie des exclus, et les étrangers en prison faisant partie des exclus, bien sûr. Ce qui est tout à fait important aussi, c'est d'essayer de mettre en pratique les principes, les valeurs auxquelles la CIMAD croit depuis 85 ans, donc, en particulier l'hospitalité, l'accueil et l'hospitalité. Quant à l'espérance, je suis vraiment jaloux quand je vous entends tous les deux, parce que personnellement, je suis aussi agnostique qu'on peut l'être, même si la religion m'a toujours intéressé et si m'arrive assez souvent de lire la Bible. Mais je n'ai pas ce même sentiment de contribuer à une sorte de transcendance de la part des détenus, parce que, bien entendu, on ne peut donner que ce qu'on a. Or, ça, je ne l'ai pas. J'ai peut-être une aspiration à la transcendance, mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Mais pour répondre à la question que vous posiez, ce qui frappe souvent, en particulier à propos des gens qui sont condamnés à de longues peines, c'est de voir l'évolution, le contraste qu'il y a entre la longueur de la peine, entre les motifs de la condamnation, parce que contrairement aux visiteurs, je crois, lorsque le chef d'inculpation et le motif de condamnation peut être utile à considérer pour la demande d'un titre de séjour, on est informé, donc on sait. J'ai deux minutes là, je peux raconter.
Oui, allez-y.
Bon, très vite. Un jour, je vais donc à Muret et je vois quelqu'un qui avait été condamné, si je me souviens bien, à 25 ans de prison. Pour des motifs, on va dire sérieux, voire horribles. Donc, nous étions deux et on s'est dit, bon, ben, on va essayer d'être professionnel et d'écouter la personne et non pas de penser au motif de condamnation. Et nous avons rencontré un gars qui avait énormément réfléchi sur lui-même, sur ce qu'il avait fait, et qui avait visiblement énormément évolué. Bon, donc il était arrivé en France à l'âge de 6 ou 7 ans, et on l'a expliqué que ce n'était pas du tout gagné, qu'il pouvait très bien à la fin de sa peine être expulsé. Et donc on a essayé de trouver des motifs, quoi. On dit, mais vous n'avez pas une compagne, etc. Si, j'ai une compagne. Alors je sais pas s'il l'a rencontré avant ou après son incarcération, peu importe. Donc et il se trouve que cette compagne était française. Alors on lui dit, mais seriez-vous d'accord pour vous marier? Et là, il m'a fusillé du regard, un regard très froid. Il m'a dit, moi, me marier au parloir avec deux surveillants comme témoins, jamais. Bon, d'accord. Je lui dis, est-ce que je peux contacter votre compagne? Donc je l'appelais. Sa compagne avait un point de vue tout à fait différent. Bref, je fais court. Elle l'a convaincu. Ils se sont mariés. Ils ont eu accès à l'unité de vie familiale. Ils ont eu un enfant. La compagne est française. L'enfant est donc français. Et on s'est dit, banco, cette personne, lorsqu'elle va sortir, aura un titre de séjour. Donc on a demandé un titre de séjour vie privée familiale en tant que parent d'enfant français, conjoint français. Eh ben, le résultat a été niet. Il est en France, il doit avoir 35 ans à peu près, donc il est en France depuis 30 ans. Et alors, il y a un recours qui a été fait contre la décision négative de la préfecture, mais enfin, bon, il est fort possible qu'il soit à la sortie, qu'il soit expulsé.
Qu'est-ce qui vous encourage, Jacques Ferry? C'est vrai qu'on entend des histoires, qui sont très concrètes, hein, que nous raconte Michel Bosque de personnes qui sont déboutées. Est-ce que vous êtes évidemment confronté dans vos visites à ce genre de décision? Comment vous arrivez à transmettre l'espoir quand même à ces personnes, à leur dire, bah, tout n'est pas perdu?
Ben, oui, ben, on est là pour ça, pour essayer justement d'entretenir l'espoir. C'est parfois difficile parce que bon, il m'est arrivé quand même il y a quelques années de rencontrer des détenus qui étaient condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Donc l'espoir dans ce cas-là, hein, il y a un horizon assez éloigné. Enfin bon, ces gens-là, ils finissent par sortir quand même au bout de 30 ans ou 35 ans. Il m'est arrivé de rencontrer deux détenus en particulier qui avaient effectué 35 ans de prison. Donc ils ont réussi quand même à s'en sortir. Mais c'est très, très difficile. Alors, ce qui me motive, moi, c'est plutôt, je me positionne plutôt en citoyen, si vous voulez, pas seulement en citoyen, mais je considère que les détenus sont des citoyens qui ne se résument pas à leur acte et qu'il y a toujours une part d'humanité chez eux sur laquelle on peut essayer de s'appuyer pour que ils réfléchissent à ce qu'ils ont commis, et parfois ils ont commis des crimes très graves. Et ce qui me motive, c'est qu'ils aient la possibilité, l'espoir, de retrouver une place dans la société, oui. Qu'ils se réinsèrent. Donc, c'est, moi, la réinsertion, c'est ça qui me motive, si vous voulez. Hein. Et donc, parfois, ça marche, parfois, c'est compliqué, mais j'ai quand même... Il y a plusieurs détenus que j'ai visités qui ont réussi à se réinsérer.
C'est une victoire.
C'est très gratifiant, si vous voulez. Et puis, en plus, même ces gens-là, une fois qu'ils ont quitté la prison, on a gardé des liens amicaux. Et donc, ça, c'est aussi de la fraternité, quoi.
Oui, bien sûr.
Et voilà.
Ouais. Bon. Ouais, ouais. Bertrand Dumont-Saint-Pré et Ghislaine Burani, en tant qu'aumônier catholique de prison, quel regard d'espérance vous posez sur les détenus ?
Écoutez, déjà on peut dire qu'en effet, comme je vous le montrais tout à l'heure, mais évidemment pour les auditeurs, pas facile à voir, on leur donne, on peut leur distribuer en début d'année un calendrier qui s'appelle Parole d'espérance, dans lequel, parce que comme je le disais tout à l'heure, ils sont très attachés au temps, donc ce calendrier leur montre le temps qui passe, mais pour chacune des pages, il y a des paroles, et souvent ils s'y réfèrent, dans leur vie quotidienne pour les faire avancer. Moi, je rajouterais à ce qui a été dit, c'est qu'on a une vision quelquefois de ce que sont les détenus à travers les films qu'on peut voir à la télévision et en particulier les films américains. Et donc, on a une vision très très fausse de ce que sont les détenus. Et il suffit, alors c'est pas facile, mais pour ceux qui en ont la possibilité un jour, c'est d'assister justement, d'aller en prison, d'assister à une messe. Et je pense que les gens changeront d'avis sur la façon dont ils voient les détenus, parce que c'est toujours très très,
très touchant.
Touchant de les entendre, de les voir, et de voir qu'ils n'ont pas obligatoirement la tête de truands qu'on a de façon un peu simpliste, façon de les décrire. Alors, par rapport à ce qui nous anime, c'est que, mais Ghislaine interviendra après, c'est véritablement, on est envoyé, nous, par l'évêque, en mission, vis-à-vis de ces gens-là, pour leur apporter le soutien de notre croyance, et puis en effet à travers un certain nombre de choses, de discussions, mais aussi quelquefois d'images, hein, ne serait-ce que par exemple voir le pape qui rend visite aux prisonniers là il y a quelque temps, et puis qui leur adresse un certain nombre de paroles. Je pense que c'est en reprenant ce genre de choses qu'on arrive à leur donner l'espérance.
Ghislaine Burali.
Oui, alors moi je rajouterais que ce qui est important, c'est de leur dire qu'ils ont de la valeur aux yeux de Dieu, qu'ils sont aimés de Dieu malgré ce qu'ils ont fait, voilà, et qu'il y aura toujours un espace pour eux, pour accepter de recevoir le pardon, et de pouvoir vivre d'une manière transformée. Voilà, il y a un verset que j'aime beaucoup dans Romains 5, c'est « Là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé ». Voilà. Et donc ça, c'est une phrase que souvent je leur dis quand ils ont une idée tellement catastrophique d'eux-mêmes qu'ils n'imaginent pas du tout qu'ils puissent un jour se récupérer et qu'on puisse se poser sur eux un regard d'humanité. Voilà. Donc voilà. Et puis donc je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, hein, que on ne les assimile pas à leurs fautes. Je crois que c'est très important de pas dire que ce sont des criminels, mais ce sont des personnes qui ont commis des crimes. Ce ne sont pas des détenus, mais ce sont des personnes détenues. Je crois que et ça permet de laisser cet espace de liberté et de transformation.
Merci pour vos témoignages. On marque une courte pause et nous écoutons Espérance composée et interprétée par Jérémy Ababou. Pendant ce temps, vous pouvez nous appeler pour faire votre promesse de don au 05 62 48 63 00. Et si vous ne souhaitez pas parler au téléphone, vous pouvez faire votre don en ligne radioprésence.com. Ce bel intermède musical, nous nous retrouvons autour de ce plateau pour échanger sur l'espérance en prison avec mes quatre invités, Ghislaine Burali et Bertrand Dumont-Saint-Prix, aumônier catholique de prison, Jacques Ferry, visiteur de prison, et Michel Bosque de la CIMADE. Pendant cette courte pause musicale, vous nous disiez, Jacques Ferry, que parfois, l'espérance, l'espoir n'a plus de place dans la vie des détenus et qu'il y a une grande désespérance. Et ça, malheureusement, il faut en parler.
Ben oui, il faut en parler parce que c'est la réalité, quoi. Oui. Et que donc, si on consulte les statistiques sur le suicide en prison, chaque année, il y a environ 110 détenus qui mettent fin à leur jour, Hein. Le taux de suicide en prison, c'est 7 à 8 fois le taux de suicide de la population générale. Et donc, c'est... Alors, à tout ça, il faut ajouter les tentatives de suicide. Hein. Donc, je sais
oui,
pas,
qui sont des appels à l'aide aussi.
Qui sont des appels au secours et des gens qui perdent espoir, oui. Et donc, moi, par exemple... deux ou trois fois par an, à Muret, j'arrive, je visite le lundi, et le détenu, je me vois, ben, il y a eu un détenu qui s'est pendu, parce que généralement, la plupart, ils se pendent, quoi, il s'est pendu, voilà. Et donc, un des moteurs qui me motive pour la visite en prison, c'est la prévention du suicide.
Ah oui.
Voilà, oui, parce que je pense que c'est ça le. Il faut éviter absolument que ces gens ils ont l'impression d'être face à un mur, quoi. Et alors, donc, le suicide, on pourrait en parler un peu plus en détail, mais c'est quand on rentre en prison, c'est le choc carcéral. Mais ça peut être aussi la perspective de la sortie. C'est le choc de la sortie, parce que quand on a passé 30 ans en prison, on est complètement...
On est déphasé, quand même.
Oui, voilà. Il y a une angoisse terrible, hein. Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais y arriver? J'ai perdu les codes, j'ai plus de famille. Et donc, ça peut amener un certain nombre de détenus à des gestes tragiques.
Désespérés, ouais, oui, bien voilà, sûr. Ouais.
Mais ouais, bon, donc justement, l'espoir, c'est qu'il faut le...
Ça se travaille, finalement.
Ça se travaille, oui. Et on est là pour ça, quoi, pour qu'ils ne perdent pas espoir.
En 2019, le pape François s'adressait à des prisonnières détenues dans la province de Buenos Aires. Il leur disait « Vous êtes privés de liberté, mais pas de dignité ni d'espérance ». C'est une parole très forte. Et vous avez beaucoup parlé de cet espoir de la sortie. Mais finalement, quand la sortie est loin, et quand vous disiez, Michel Boss, que la sortie est là, mais qu'il peut y avoir effectivement une demande de sortie de territoire après, cette sortie peut faire peur, et c'est ce que vous disiez aussi, Jacques Ferry. Comment garder l'espérance indépendamment de cette sortie, finalement? Est-ce qu'elle peut être construite au jour le jour sur des petits éléments, des petits exemples de la vie quotidienne?
C'est ce qu'on essaye de faire quand on voit qu'un détenu est un petit peu en dessous de la vague, et c'est-à-dire que d'essayer de le faire se raccrocher aux choses qui justement lui permettront de surmonter ces moments de doute ou de problème. Bon, un petit exemple, j'étais depuis peu aumônier dans la prison, et j'ai croisé un détenu qui a commencé à me parler en me disant bon, tout est foutu, tout est sans. Je précise qu'il n'était pas catholique, pas croyant, mais il m'a croisé. Alors, est-ce que j'avais une bonne tête ce jour-là? Je sais pas. on a discuté un long moment, et je sentais que vraiment ça n'allait pas. Et je me suis posé la question après. Et j'ai eu, si vous voulez, ce que normalement on fait pas, c'est-à-dire d'aller, je suis allé voir le chef de la détention pour lui dire surveiller ce détenu parce qu'il
va pas bien.
Il va pas bien. Et c'est ce qui a été fait. Et bon, heureusement, ce monsieur n'est pas passé à l'acte. Et le lendemain, je l'ai recroisé et il m'a dit: je sais que tu as été voir la chef de la détention. Merci de ce que tu as fait. Parce que j'étais pas bien. Et ben, je trouve que ce simple exemple montre qu'on essaye quelquefois de trouver par les mots le moyen de leur remonter un peu le moral par rapport à des échéances qui, en effet, voilà. Bon, ce détenu est toujours en prison.
Et est-ce que si vous avez un détenu qui n'est pas catholique, vous pouvez vous, voilà, s'il vous appelle comme ça quand vous passez dans les couloirs, vous pouvez lui permettre, justement, quand il est dans une situation désespérée, lui dire, tu as du prix aux yeux de Dieu. Est-ce que vous pouvez lui parler quand même de Dieu ou pas, Ghislaine ou Bertrand?
Alors, oui, bien sûr, nous pouvons parler de Dieu, mais voilà, il faut d'abord qu'il nous identifie bien, hein, oui, parce que c'est très important. On ne fait pas de prosélytisme en prison. Donc, c'est la raison pour laquelle, nous l'avons dit au départ, c'est sur la demande des détenus que nous allons les voir. Voilà. Mais il se trouve que dans les coursives, quand on circule, il y a parfois des détenus qui savent qu'il y a d'autres détenus qui ne sont pas bien et qui leur disent « Ah ben regarde, tu as l'aumônière de prison, là, ça c'est le moment où jamais, il faut que tu parles avec elle, il faut que tu lui poses tes questions. » et voilà, et alors là, ça se fait naturellement, ça se fait tout seul. Et personnellement, si je vois que la conversation vraiment s'amorce à ce moment-là, je propose à la personne détenue de le rencontrer en cellule, puisque nous avons cette possibilité-là, et qu'il en fasse la demande. Voilà. Mais c'est vrai que il y a cette espèce d'évangélisation, mais qui se fait pas par nous, qui se fait par les autres détenus, et qui essaie de nous mettre en contact avec eux. Voilà. Ouais. Et ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que on a des témoignages à l'aumônerie de détenus, donc qui sont croyants et qui encouragent les autres détenus quand ils ne sont pas bien. Ils vont les voir, ils discutent avec eux, ils leur proposent de venir à l'aumônerie. Voilà, il y a une véritable entraide. Et ça, je crois que cette présence chrétienne en prison est vraiment très importante pour ça.
Est-ce que Michel Bosque et Jacques Ferré, vous, en tant que visiteur de prison, il y a un moment où vous vous dites, en fait, je peux plus rien faire et il faut que j'appelle un aumônier de prison. Est-ce que ça vous arrive?
Personnellement, non, ça ne m'est jamais venu à l'esprit parce que j'ai pas senti qu'il y avait une demande par rapport à ça.
Oui.
Par ailleurs, parmi la population étrangère en détention, il y a beaucoup de musulmans.
Il y a des aumôniers musulmans en prison.
Oui, bien sûr. Il arrive qu'ils préfèrent assister au culte que qu'honorer le rendez-vous que nous avons. Ça, c'est une autre question. Je voulais dire quelque chose. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'entre les motivations et l'action, la tentative d'action des gens qui sont missionnés par l'évêque, et par la bouche de qui souffle le Saint-Esprit, si j'ai bien compris, et des gens comme nous deux qui sommes, parce que, d'après ce que j'ai compris aussi, agnostiques, voire athées, etc. Il y a tellement de points communs qu'on a l'impression que nous ramons dans le même sens. Et ça, je trouve ça assez réconfortant.
Jacques Ferry.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Michel. Moi, je suis pas agnostique. J'essaye d'être athée, vous voyez. Hein,
j'ai pas la
donc,
force.
il y a une similitude évidente dans nos actions. Et non, ça m'est jamais arrivé en face d'un détenu de dire qu'il pouvait aller voir l'aumônier. La question s'est pas posée, mais par contre je fais la promotion des aumôniers parce que tous les 15 jours je vais à Muret, il y a l'accueil des arrivants, hein, parce que donc toutes les semaines il y a des détenus qui viennent des maisons d'arrêt, parce que bon, les maisons d'arrêt sont surpeuplées, donc on transfère les détenus au centre de détention, et donc ils sont au bâtiment A, l'accueil des arrivants, et donc moi j'y vais avec une collègue en alternance, et donc je représente la mission de visiteur de prison, comment on fait pour avoir un visiteur, etc., comment ça fonctionne, quels sont les principes. Je parle des associations qui peuvent les aider en détention. Donc il y a le Secours catholique, la Ligue des droits de l'homme, la CIMAD, l'Oustal, etc. Et je termine toujours par un petit paragraphe sur les aumôniers en disant, bon, bah, à Muret, vous avez toute la gamme, si je puis dire, des aumôniers disponibles. Et si vous avez des besoins spirituels, c'est eux qu'il faut aller voir. Et ils ont l'avantage, par rapport à nos visiteurs, de pouvoir vous rencontrer dans votre cellule. Vous voyez, donc je fais votre promotion. Hein, voilà. J'espère que vous en serez reconnaissant.
Vous êtes en pleine collusion.
Et moi, je voudrais rajouter que nous faisons aussi la promotion des visiteurs, parce que vraiment, nous sommes de véritables tandems. J'ai l'exemple d'une personne détenue extrêmement malade, qui atteint de la maladie de Charcot, qui est extrêmement mal soignée en prison, et vraiment qui a une visiteuse absolument extraordinaire, qui fait un travail différent du nôtre, mais vraiment nous avançons main dans la main, nous nous appelons régulièrement, et vraiment, moi je tire vraiment un grand, grand chapeau aux visiteurs de prison, qui font un travail absolument indispensable auprès des personnes détenues.
Voilà une belle parole d'espérance. Jacques.
Oui, alors, je connais très bien cette personne, Claudine Gory, parce que c'est avec elle que je fais aussi l'accueil des arrivants en alternance. Et donc, elle me parle souvent de ce détenu qui a la maladie de Charcot, et elle me dit que c'est vraiment extrêmement difficile. Et moi, je l'admire hein, pour le soutien qu'elle apporte à cette personne.
Et puis
personne,
sa fidélité, puisque visiblement, elle vient régulièrement.
Alors,
ce que je voulais rajouter, par exemple, c'est que avec cette personne qui est atteinte de la maladie de Charcot, c'est vrai qu'on ne peut pas faire grand-chose. Ouais. C'est un squelette assis sur un lit, qui ne peut quasiment plus s'exprimer, mais qui a la foi. Et donc, on essaie de comprendre ce qu'il veut nous dire. C'est pas toujours facile, mais ce qui me relie à lui, c'est vraiment la foi, c'est la prière. Je suis revenue de Lourdes avec un chapelet autour du poignet, et je voyais qu'il reluquait ce chapelet, et je lui ai demandé s'il en avait un. Il m'a dit non. J'ai dit, est-ce que ça te ferait plaisir? Oui. Et voilà, et il prit le chapelet. Et surtout, il me demande toujours pour qui je veux qu'il prie. Et ça, c'est vraiment, ça me touche beaucoup. Et donc, je lui donne des intentions de prière. Je vais le voir entre une et deux fois par semaine. Et chaque fois, il me demande comment va la personne pour laquelle il a prié. Voilà.
Ça donne un sens, justement. Ça, c'est source d'espérance.
Voilà. Et nous pouvons... Les jours où vraiment il est extrêmement fatigué, où il ne peut plus s'exprimer, eh bien dans le silence, nous prions ensemble.
Mmh. Jacques Ferry.
Oui, donc ce que je voudrais ajouter, c'est que cette personne qui est extrêmement malade, elle ne devrait plus être en prison.
Ben, bien sûr.
Hein, et donc Claudine Gory et d'autres essayent d'agir pour qu'il soit soigné. Ouais. Ça, c'est quand même scandaleux que cette personne dans cet état-là. Soit encore en détention.
Peut avoir son prénom pour que nos auditeurs puissent prier pour lui? Non.
Je ne sais pas si on peut dire les prénoms. Alors il s'agit de Jean-Jacques.
Voilà. Alors nous allons inviter nos auditeurs à prier pour Jean-Jacques et puis évidemment à confier toutes vos visites en tant que visiteur, en tant que délégué bénévole pour la CIMAD, en tant qu'aumônier catholique de prison, certainement le Seigneur passe par chacun de vous. Merci infiniment pour tous vos témoignages ce matin. Merci Ghislaine Burali et Bertrand Dumont-Saint-Pré, aumônier catholique de prison. Merci Jacques Ferry, visiteur de prison, et Michel Posque de la CIMAD.
Merci à vous.
Merci.